Hé, Al, hé, regarde. C'est quoi là? 6 heures du mat? Et il bouffe des œufs crus?
Ah ben, écoute, Ed, je suis content que tu m'en parles. Voilà une vraie éducation, un vrai rythme de vie. On se lève avec le soleil et on s'active au lieu de glander comme la jeunesse paresseuse qu'on a aujourd'hui.
C'est marrant que toi, tu qualifies ça de paresse, mais on y reviendra. Tu m'expliques pour les œufs crus? C'est de la bonne vieille cuisine à l'ancienne, c'est ça? Genre avant l'invention du feu?
C'est vraiment toujours pareil avec vous les jeunes, hein. Il faut tous en transpirer. Dormir, avoir des œufs cuits, le confort sans le moindre effort, quoi. L'œuf, ça se mange cru pour devenir fort et bien portant. Si vous les faites cuire, ben c'est juste pour ne pas incommoder vos papilles de princesse.
Et le café que t'engloutis, tu fais comment? Tu croques dans les grains et tu mélanges avec de l'eau?
Non, moi le café, je le bois bien tassé, court, à l'italienne. Et si ma mâchoire reste accrochée sur la tasse une fois que je l'ai bu, c'est qu'il était bon.
Tiens, restez accroché. Il me semble que ça te connaît. De ce que m'ont dit tes collègues, ils ont déplacé le petit écriteau de la porte de ton bureau jusqu'à la façade de la machine à café. Il paraît que c'est l'endroit le plus sûr pour te trouver.
Ok, je veux bien l'avouer. Ces dernières années, j'ai un peu ralenti. Mais tu vois, ce repos, je l'ai mérité. J'ai travaillé dur pour ça, moi. Et tu vois, petit, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu l'obtiendras. En attendant, au boulot.
Ce qu'il faut pas entendre. Bon, au moins, vu que tu t'entraînes, ton café, c'est vrai qu'il est bon. Allez, serre-moi un autre. De toute façon, c'est ce que tu fais de mieux.
Bienvenue dans ce nouvel épisode...
Shambara!
Du podcast Le Samouraï et la Soubrette. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un film qui s'appelle Le Garçon et la Bête. Un film donc de Mamoru Hosoda, sorti le 11 juillet 2015 au Japon et sorti en France le 11 janvier 2016.
13 janvier 2016.
13 non. Ah oui, le 13. Mes lunettes, la vieillesse, c'est vraiment moi, Al. C'est une vraie personnification.
Faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, c'est pas la première fois qu'on traite d'un film de Mamoru Hosoda. Vu qu'on
ça commence à en faire quelques-uns.
Ouais, on a déjà traité Belle auparavant. On en avait traité un autre aussi, je ne sais plus.
Alors, pas dans un Shambara, mais du coup, quand on a parlé de Belle, on a quand même pas mal parlé des enfants loups à Meiyuki.
Oui,
pour faire le parallèle sur la. Qualité d'après nous, en tout cas le mérite vis-à-vis d'une standing ovation.
Oui, effectivement, oui. Et donc c'est cette fois-ci un visionnage qu'on a fait ensemble avec Jean. Jean, est-ce que tu peux nous présenter le synopsis de ce film?
Oui, bien sûr, volontiers. Alors donc, le garçon et la bête nous présente un personnage, un enfant en fait, qui étant au Japon et ayant perdu ses parents, alors perdu ou en tout cas perdu de vue, se retrouve sur le point d'être adopté par d'autres membres de sa famille, parce qu'on est au Japon, et il n'a pas bien envie, et du coup il fugue, et se fait retrouver par des sortes de bestioles d'animaux humanoïdes, anthropomorphes, et l'un d'eux dit « Tiens, eh ben, lui ça va être un peu mon apprenti ». Et l'embarque. Et donc, il se retrouve, malgré lui, dans un monde qui est donc dissimulé parmi celui des humains, qui est le monde de ces animaux-là, qui est en proie à une période un petit peu difficile diplomatiquement, parce que le grand et vénérable lapin qui les dirige s'apprête à tirer sa révérence, et il doit choisir un successeur parmi deux candidats de prédilection. Et donc l'un d'eux est ce personnage-là qui a récupéré le petit parce que a priori c'est obligatoire d'avoir un apprenti pour pouvoir prétendre à la succession et donc ça apparaît un petit peu comme être un prétexte en fait. Il se dit allez hop, je le prends et puis c'est bon, j'ai rempli toutes les conditions et puis en fait ça va beaucoup plus changer sa vie que ce qu'il n'aurait pu le croire.
Exactement, et évidemment ça va bouleverser la vie du petit.
Évidemment. Voilà, du coup maintenant qu'on a parlé un petit peu du concept de ce long métrage, on va faire comme d'habitude, on va vous parler de ce qui nous a plu et de ce qui nous a un peu moins plu, voire déplu. Et donc, je vais laisser la parole à Xavier pour commencer.
Eh bien, moi, ce qui m'a plu, et en vrai, ce qui nous a plu, parce que je pense qu'on a un avis assez similaire, c'est toute la première partie du film qui montre la connexion entre du coup le personnage de Kyuta qui est le petit garçon et le personnage de Kumatetsu qui est la bête et donc le prétendant au titre suprême.
Un des deux prétendants au titre suprême
et ça va être toute une partie où les deux vont devoir s'apprivoiser au sens même premier du terme. Comme on a dit, les deux sont vraiment ensemble dans un besoin utilitaire. Le petit garçon parce qu'il voulait fuir et la bête parce qu'il lui faut un apprenti apparemment parce que c'est dans les règles.
Ouais.
Et ils vont devoir apprendre. Et toute la partie où on les voit apprendre à communiquer ensemble, apprendre à se tolérer, à se respecter, où justement l'un va apprendre l'influence qu'il a sur l'autre, notamment la bête va apprendre l'influence qu'il a sur le petit garçon. Le petit garçon va comprendre aussi que finalement il a une influence qui n'est pas neutre sur le grand. Et de façon très drôle en plus, parce que pendant tout le truc ils n'arrêtent pas de s'engueuler
ils s'envoient des crasses, des fions.
Très très marrant, et c'est d'autant plus drôle qu'entre guillemets il y a toujours deux commentateurs sportifs à côté. Donc en gros il y a deux personnages qui sont les meilleurs amis de Kumatetsu.
Ouais, donc en gros le singe et le cochon.
Voilà, un qui le cochon qui est un personnage plutôt très sage qui essaye de
d'arrondir les angles, d'être un peu le juge de paix.
Voilà, et l'autre qui plutôt dit à Kumatetsu non mais au bout d'un moment si t'en as marre lâche, laisse tomber, voilà quoi.
C'est puis il essaye d'inciter le garçon à se barrer.
Ouais, voilà. Et ouais, du coup, le singe. Voilà, et ce qui est bien c'est que c'est un peu une voix, voilà, c'est pas si manichéen, c'est une voix entre les deux, et c'est surtout j'ai l'impression la manière dont Osoda a voulu montrer ça et l'a représenté, que ça soit en termes de montage, que ça soit en termes de mimique, en termes d'animation, de complicité entre les deux, ça marche excellemment bien. Moi j'étais conquis toute la première partie du film, j'étais conquis.
Ouais, bah je pense que t'as quasiment tout dit, hein, parce que c'est un petit peu pareil. J'irai plus loin en disant que au final ces deux personnages, au départ, ils ont l'air assez presque unidimensionnel au tout premier abord. Évidemment c'est pas du tout le cas, mais c'est un sentiment qui est voulu, qui est attendu de notre part, et il les rend extrêmement attachants, notamment par ces scènes du quotidien, ou même par les conflits qu'ils ont, et quand ils se retrouvent un peu dos au mur, ils se retrouvent face à ça, ils sont obligés au final de s'ouvrir à l'autre. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à plus que se respecter, parce que tu as parlé de respect, aussi à s'apprécier et à s'aimer sincèrement. Et à la fin, ils ont plus besoin de se foutre sur la gueule, en fait. Ils se sont acceptés et ils sont...
Mais ils le font quand même par tradition, tu vois. J'ai l'impression. Il y a un vrai rapport, justement, à mi-chemin entre maître-élève et père-fils.
Et c'est ça qui est vraiment bien réussi, qui est très touchant. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur ce réalisateur au sens large, au sens de sa filmographie. Il est vraiment plutôt bon pour nous présenter des personnages auxquels on a envie de s'attacher.
Des personnages auxquels on a envie de s'attacher, et des relations entre
Ça c'est très réussi, donc je suis d'accord. Du coup c'est un petit peu pareil pour le bémol. Parle-nous du coup de la dernière partie du film.
Je vais te laisser le muscle pour de manière générale, mais je vais te faire une intro en disant que voilà, on aime beaucoup la manière dont il construit les personnages et les relations. Par contre, en termes de scénario, c'est toujours un peu plus compliqué, et le dernier tiers de Garçon et la Bête ne déroge pas à la règle quand il veut faire des films d'action.
Ouais, même il l'illustre en fait, hein. Il l'illustre à la perfection. Donc effectivement, on a un personnage qui sert, on va dire, d'élément perturbateur, donc il fait un petit peu dévier le scénario là où on l'attendait pas.
Vraiment, on l'attendait.
Ouais. Et c'est un petit peu, enfin, on essaye d'en faire, comme tu disais quand on discutait tout à l'heure, un miroir du personnage principal, mais c'est vrai que ça marche pas du tout, parce que c'est pas amené, c'est pas développé, le truc qui sort de... Alors il sort de nulle part, enfin si, on voyait ce personnage dès le début, on se disait tiens, lui il a un truc spécial, il a un truc sur la tête, donc voilà, ça y est. Et puis on essaye de lui donner une motivation pour ce qu'il est en train de faire, qui est assez grave en soi, dans le sens de leur tradition. Mais ça marche pas du tout. Enfin, moi perso, j'ai pas du tout eu d'empathie pour ce personnage et pour ses agissements. J'ai pas eu du tout de compréhension. On lui donne des sortes de pouvoirs démesurée par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Et là encore, c'est pas développé. Contrairement aux prétendants au trône, où on les voit s'affronter, s'entraîner, etc. On se dit, ok, ces personnages-là, on sait d'où ça vient, on sait de quoi ils sont capables. Là, c'est en mode, moi, ça m'a rappelé un peu Akira. Quand à un moment donné le personnage perd le contrôle et devient une monstrueuse créature, tu es en mode oh wow, enfin ça dépasse l'entendement. Le personnage lui-même s'attend pas et puis il perd le contrôle. Là vraiment c'est ouais il a des pouvoirs qu'on sait pas d'où ça sort. Et
Juste, si tu parles d'Akira, limite, je trouve la fin, justement, cette fin d'Akira, ce côté très monstrueux, plus approprié dans un monde limite qu'on considère comme post-apo, avec le côté très sombre que tu as déjà, que l'ambiance très sombre que tu as dans tout le
Oui,
film.
oui.
À la limite, tu dis tout est monstrueux, un peu comme la ville autour, un peu comme les
Ouais,
gens autour.
oui.
Là,
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est
tu vois, là, on
dans
est
Akira, c'est
vraiment.
un personnage qui perd le contrôle.
Ouais.
Là, c'est un gars qui a le contrôle sur ses capacités. Mais c'est juste que nous, on ne sait pas trop d'où elles sortent, en
Mais
fait.
lui non plus, c'est un
Ouais.
peu bizarre. Ouais.
Et puis du coup, comme tu le soulignais, ça, c'est prétexte pour donner lieu à des scènes d'action qui sont franchement pas intéressantes. Hein. Que ce soit les enjeux qui n'ont pas été amenés, donc franchement, on s'en fout, on s'y attache pas. Ou même la réal, parce qu'en soi, enfin, ça a vraiment rien de bien fameux, que ce soit dans la mise en scène ou dans l'animation, quoi.
C'est dommage parce que limite pour le coup y a une ou deux scènes de combat entre voilà, les deux rivaux au titre qui sont vraiment assez sympas et assez originales dans la manière qu'elles sont faites, justement sur le côté ils ont une forme
Des combats et des
humanoïde, une forme un peu bête justement, enfin en homme bête.
ouais, ça mélange un
Voilà, et
peu
c'est plutôt cool. Là, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, du dernier tiers, c'est de l'overkill en fait. C'est on va se sortir ce pouvoir-là.
ouais, et
Et puis cette transformation-là.
on tombe un peu dans le mais.
Ah ouais, non,
Ouais.
on s'ennuie un peu, ouais.
Et puis, pareil, on en parlait un petit peu hors antenne, un personnage féminin qui était plutôt intéressant et plutôt attachant au départ, qui avait une relation qui commençait à se nouer avec le personnage principal.
Je dirais même si c'était un personnage qui est moteur dans la transformation, il est moteur dans l'évolution du personnage principal.
Et qui devient du coup en simple demoiselle en
Oh,
détresse.
c'est triste.
Ouais,
C'est vraiment triste.
même plus qu'une personne devient un MacGuffin, quoi.
Ouais, c'est dommage parce que pour le coup, Oswald, on peut pas lui reprocher de pas savoir écrire des personnages féminins, quoi. Donc c'est là, c'est un peu dur.
Voilà, et donc au final, c'est. Je dirais pas que ça gâche pas le visionnage, quoi, mais forcément finir sur un troisième tiers qui est beaucoup plus mec que les deux premiers qui étaient vraiment dépaysants et super attachants et super engageants émotionnellement pour nous, là on retombe sur un tiers où on est là en mode mais ouais, bon, ok, fais ce que tu veux, vas-y.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, même pour conclure, c'est un film que je prendrais au global plus comme un film dans la filmographie de Hosoda que le film en soi. Le film en soi, je suis pas sûr que je le conseillerais à tout un chacun. Ou alors, je dirais forcément, bon, la fin, tu m'excuseras. Mais par contre, je trouve qu'il est vraiment dans la continuité de. Enfin, il est vraiment très touchant dans la manière dont il construit la relation entre justement le garçon et la bête, quoi.
Ouais, c'est vraiment super. C'est
Et
d'autant
ouais.
plus dommage que du coup sur la troisième tierce, ça soit un petit peu moins intéressant.
C'est ça.
Voilà, bon, et on peut conclure sur ces belles paroles. Donc, Le garçon et la bête, un film qui a tout à fait sa place dans la filmographie de Mamoru Hosoda, avec donc les mêmes qualités et mêmes défauts qu'on a déjà pu énumérer. Mais malgré tout, quand même, on a passé un bon moment.
Oui, je connais pas de mauvais film de Soda en vrai.
Voilà, donc c'est plus en fait une petite déception du face au potentiel que ça aurait pu avoir si ça avait continué crescendo, quoi.
Oui, mais on revient à ce qu'on a un peu dit dans Belle, hein, au
Voilà.
final, et c'est pas étonnant.
Voilà. Et ben voilà, on met fin à cet épisode de Shambara du Samouraï à la soubrette. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes en train de magouiller dans l'ombre, sombre machination, pour essayer d'être disponible sur Amazon Music et donc prochainement via les appareils connectés Alexa.
C'est ça.
Donc on vous tiendra au courant. Il y aura peut-être moyen que si vous en disposez à la maison, vous puissiez demander à votre petit appareil espion de vous mettre le meilleur podcast de la planète pour vous détendre.
Voilà, en attendant, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, enfin bon, voilà.
Ou même pour les vieux de la vieille, notre flux RSS.
Mais oui,
Toujours là,
pour les
toujours
bidouilleurs.
debout.
Pour les bidouilleurs.
Allez, à bientôt, merci pour votre écoute.
Salut.